C'est le journal de Coraline Pochard. Bonjour Coraline.
Bonjour Romaine, bonjour à tous. 20 ans de prison, c'est la peine requise par la cour d'assises de Paris à l'encontre d'Abdelkader Merah. Le frère de Mohamed Merah est reconnu coupable d'association de malfaiteurs en vue d'un acte terroriste, mais pas de complicité d'assassinat. Ariane Asseler, notre correspondante à Paris, revient sur un procès de longue haleine. Le canton de Vaud prévoit de baisser son taux d'imposition des entreprises d'ici 2019. Son voisin Genevois prend peur et redoute une perte d'attractivité fiscale. La réforme de l'imposition des entreprises promet de faire du bruit. Les explications de Sylvie Belzer. Et l'histoire de 4 centilitres de whisky à 9 999 francs qui s'avéreront en réalité être de moins bonne qualité que prévu. 20 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue d'un acte terroriste, c'est la peine requise par la cour d'assises de Paris à l'encontre du frère de Mohamed Merah, Abdelkader. La complicité d'assassinat n'a pas été retenue contre le prévenu et les magistrats sont allés moins loin que ce que souhaitait l'avocat général, la prison à perpétuité. Ce procès fleuve et symbolique sera resté sous haute tension jusqu'à la fin. Ariane Asseler, notre correspondante à Paris, y était.
Pour la cour, Mohamed Merah a commis ses crimes seul. Rien ne prouve que son frère ait été partie prenante, ni n'ait eu connaissance de ses projets macabres. Pas plus qu'il ne puisse être établi que l'influence d'Abdelkader sur Mohamed ait été déterminante pour son passage à l'acte. Un raisonnement difficile à entendre pour les familles de victimes qui espéraient une condamnation à perpétuité. À la sortie du tribunal, certains ont laissé exploser leur colère, conspuant une justice qui, je cite, « laisse tuer des enfants juifs ». Maître Dupont-Moretti, défenseur d'Abdelkader Merah, s'est lui violemment fait huer par plusieurs individus. Mais le ténor du barreau est resté stoïque. Ce soir, la cour a rappelé que même dans les affaires les plus graves, la preuve n'était pas reléguée au rang d'accessoire. Une pensée pour les victimes à qui on a fabriqué un faux coupable pour étancher leur soif de justice. Maître Dupont-Moretti qui n'exclut pas de faire appel sur le jugement pour association de malfaiteurs. L'avocate générale peut elle aussi faire appel. L'affaire Merah et ses échos douloureux ne sont pas encore classés. Ariane Asseler, RTS Info. Paris.
L'islamologue et théologien suisse Tariq Ramadan réplique après le dépôt de 2 plaintes pour viol à son encontre.
Les avocats de Tariq Ramadan ont à leur tour déposé une plainte pour subordination de témoins. Ils réclament l'ouverture d'une enquête car soupçonnent de potentielles collusions selon des sources proches du dossier. Le théologien suisse de 55 ans est sous le coup d'une enquête préliminaire pour viol, agression sexuelle, violence et menace de mort. 2 plaintes ont été déposées.
États-Unis, Suisse, on connaît désormais le nom du nouvel ambassadeur américain en Suisse et au Liechtenstein.
Il s'agit d'Ed McMullen. Sa nomination par Donald Trump a été confirmée hier au Sénat. Ed McMullen est un proche allié politique du président. Ce natif de New York, installé depuis plus de 30 ans en Caroline du Sud, succède donc à Suzy Lewin, qui a quitté la Suisse à la fin de janvier. Il aura donc fallu un peu plus de 9 mois à l'administration Trump pour nommer son nouvel ambassadeur à Berne.
Les opposants à l'initiative Nobilag ont lancé hier leur campagne contre ce texte.
Un texte qui vise à supprimer la redevance. Or, pour l'association romande Non à Nobilag, l'initiative provoquerait la disparition de plusieurs chaînes de radio et de télévision. Nicolas Jutzet préside le comité romand de l'initiative Nobilag. Le vice-président des jeunes PLR neuchâtelois juge sévèrement ses opposants.
Pour nous, elle regroupe un peu une coalition de nostalgiques qui se battent avant tout pour leurs intérêts personnels et qui répondent pas réellement à une réalité qui est présente dans la population. Donc c'est quelque chose qu'on prend évidemment au sérieux parce qu'ils sont là pour faire peur aux gens. Mais dans leur message, il n'y a pas de grand fondement scientifique. Donc on est d'accord de débattre sur tout ce qu'ils annoncent et puis on va pouvoir casser tous les arguments qu'ils proposent parce qu'ils sont tous faux.
Vous répondez quoi précisément à cette question de la disparition de chaînes de radio et de TV?
Les différents rapports montrent que les chaînes de radio-télévision privées, comme on les appelle, malgré le fait qu'elles touchent des grandes parts de redevances, ont un public et satisfont une demande. Donc il n'y a pas de raison qu'en disparaissant, la redevance fasse disparaître en même temps les gens qui apprécient cette offre-là. Donc ils seront tout à fait à même de souscrire des abonnements, de souscrire des donations, etc. Donc il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse. C'est vraiment faire peur aux gens. Donc je crois que c'est des choses qui ne répondent pas à une réalité profonde. C'est plus pour agiter des peurs et refuser le débat sur le fond.
Des propos recueillis par Marc Menichini.
Le canton de Genève s'inquiète de sa réforme de l'imposition des entreprises.
Le projet genevois de nouvelle imposition protection des entreprises doit être réactivée et c'est urgent. Voilà le cri du cœur qui vient de la Chambre de commerce, d'industrie et de services. Elle fait suite à la décision du gouvernement vaudois, cette fois, de mettre en œuvre sa propre réforme dès 2019, des taux abaissés à 13,79%, alors que Genève n'aura pas adapté le sien. Sans consensus politique, la perte d'attractivité fiscale est un risque réel pour le canton. Sylvie Belzer.
La décision vaudoise est tombée comme un couperet. Vaud va faire cavalier seul en introduisant son taux de 13,79%, enterrant le principe de bonne cohérence lémanique, sans attendre donc la nouvelle mouture du volet fédéral et en avance sur le calendrier qui prévoit une mise en œuvre dès 2020. Mais ce que le canton de Vaud peut financièrement se permettre, Genève n'en a pas les moyens. Le canton doit pouvoir compter sur la rétrocession fédérale et pour rester compétitif, il faut travailler le consensus, comme le souligne Frédéric Reblandry, directrice générale de la Chambre de commerce.
La compétitivité d'un canton dépend aussi de la manière dont son monde politique peut s'accorder. Il est impératif, si Genève veut garder son attractivité, que le monde politique se mette d'accord rapidement. Évidemment qu'en période préélectorale, je doute que la gauche baisse les armes. Mais il faudra quand même bien trouver un consensus sur cette réforme.
Effectivement, la gauche n'entend pas déposer les armes avant les élections cantonales et pas forcément après non plus. Elle dénonce un projet déséquilibré et exige des compensations supplémentaires pour une baisse de l'imposition des entreprises qui serait alignée sur le taux vaudois.
Et en Valais, le canton s'organise pour lutter contre le travail illégal. L'association valaisanne des entrepreneurs a mis en place un système de badge électronique, une sorte de carte d'identité professionnelle pour vérifier le statut de l'employé, s'il a bel et bien un contrat de travail, et puis le paiement de ses charges sociales. Pour le moment, une cinquantaine d'entreprises valaisannes de construction se sont engagées à se doter de cet outil.
Une erreur stratégique. Voilà comment Unia juge la décision annoncée hier par Meyer Burger de fermer son site de production à Thun.
Cette mesure entraînera la disparition de 180 emplois, selon le spécialiste bernois des panneaux solaires, jusqu'à 250, selon le syndicat. Une partie de la production sera délocalisée en Chine, alors que la recherche et le développement resteront à Thun, où Meyer Burger a son siège. Mais pour Lucas Dubuis, le porte-parole d'Unia, cette annonce de suppression de postes est emblématique. On l'écoute.
Elle touche une entreprise qui est active dans l'énergie verte. Ce qui est vraiment problématique, c'est qu'on fait face depuis un certain nombre d'années au blocage de Johann Schneider-Hamann, qui refuse la mise en place d'une telle politique industrielle volontariste. La Confédération, elle regarde passer le train. Elle pourrait se doter d'outils, par exemple soutenir l'investissement pour la création d'emplois qui touchent la reconversion de la société et de l'économie. On peut penser par exemple à l'argent qui est amassé dans les caisses de pension, qui est possédé aussi par les salariés. Des fonds pourraient être créés avec ça pour investir dans cette économie avec des garanties de la Confédération, par exemple.
Des propos recueillis par Olivier Chorderet. Et puis cette anecdote, estimée à près de 10 000 francs, celle du whisky le plus cher du monde servi dans le luxueux hôtel Grison Waldhaus am See. Ce verre de whisky a été vendu à un client chinois pour 9 999 francs l'été dernier, avant que l'histoire ne se complique. Katia Cher.
L'histoire a fait le tour du monde une première fois, en août dernier, quand un riche client chinois en visite dans les Grisons s'offre un dramme de whisky, comme disent les spécialistes écossais, donc un peu moins de 4 centilitres ou 2 cuillères à soupe et demie, pour la somme de 9 999 francs. Un prix exceptionnel pour un whisky qui devait l'être tout autant, comprenez un Macallan de 1878. Cette dégustation, relatée dans la presse mondiale, fait rêver. Mais elle fait aussi des sceptiques, qui doutent de l'authenticité du précieux breuvage. De quoi pousser la direction du luxueux hôtel à exiger que plusieurs tests soient réalisés. Et c'est là que le soufflet retombe ou que les médias s'enflamment, parce qu'il s'agit d'un faux. Une copie distillée dans les années 70. Le Macallan 1878 a 100 ans de moins, titre alors le communiqué de l'hôtel. L'hôtel qui s'empresse de rembourser le client, sans préciser où il s'était lui-même procuré la bouteille.
Et selon 20minutes.ch, la fausse bouteille avait été achetée par l'ancien patron de l'établissement.
C'était le journal de Coraline Pochard. Merci Coraline.